Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jeudard, le 16 janvier 1992.
Recherche de ce que représente la finalité, la fin de ce qui est en tant qu'être. Mais nous devons synthétique, c'est qu'il veut montrer là que grandes expériences de l'intelligence sont présentes et analogiques pour nous montrer que les différents niveaux intelligibles où on découvre l'aspect de l'acte et de la puissance doivent concourir. Alors c'est pour ça que nous reprenons cette petite enquête en sachant très bien que plus on doit s'élever haut, plus on doit pénétrer loin dans ce qui est dans la réalité existante. Cette réalité existante, c'est nous-mêmes. C'est notre propre existence. Puisque c'est à l'égard de nous que l'expérience métaphysique de l'être est la plus riche. C'est vrai, j'atteins plus profondément l'être en réfléchissant sur moi que sur mon voisin, même s'il a une tête de plus que moi, même si de fait son existence m'apparaît plus parfaite que la mienne. C'est mon existence que j'atteins le mieux. Alors nous avons vu comment en philosophie de l'art nous avons une expérience de la finalité. La première expérience. C'est même capital de souligner que c'est la première expérience. L'œuvre d'art termine, achève tout l'effort du travail. Si le travail est l'expérience humaine la plus commune et aussi la plus étendue. C'est très important de comprendre ce que représente cette découverte de l'acte dans la philosophie de l'activité du travail, de l'activité artistique. Et c'est chez l'artisan que le travail est le plus conscient. Je crois que l'artisan est le modèle de l'homme travailleur. Et c'est l'artisan qui a le sens le plus net que son œuvre actue, termine, achève. Là, il y a une expérience capitale. Je peux la prendre chez l'architecte, qui d'une certaine manière est l'artisan, le plus artisan. L'architecte représente architectonique, représente celui qui touche l'aspect le plus synthétique dans le travail. Ça aujourd'hui d'une façon très 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 curieuse, combien l'architecte qui reste un architecte touche dans l'œuvre qu'il accomplit quelque chose d'ultime pour la transformation de la matière. Regardez les œuvres d'aujourd'hui. Regardez les autoroutes, comme ça transforme notre univers, ça le modifie, on ne l'a jamais tant modifié. Si on écoutait bien, on entendrait la nature qui crie. Parce que je crois qu'on les fait subir des tensions comme elle n'a encore jamais vécu. Les gémissements de notre monde, comme dit l'Écriture. Il y a des les autoroutes font gémir notre univers. C'est l'œuvre de l'homme qui transforme l'univers. Les avions font gémir l'élément air. Il y a la terre, l'air. Il y a la domination du feu et la domination de l'eau. On voit bien la technique poussée à l'extrême. Et on a fait des progrès inouïs durant ce siècle sur la domination de l'univers. Jusqu'où peut-on aller, hein? C'est ça qu'il faut comprendre, cette espèce d'actuation artificielle. On n'arrivera jamais à refaire la nature. Il y a un film actuellement, un petit film très extraordinaire, où on montre comment la technique arrive à refaire toutes les pièces du corps humain. Et donc, on peut faire la synthèse. Donc on est arrivé maintenant, dit-on, au moment où on est tout proche de refaire que l'homme crée un homme. Étant donné que le corps de l'homme dans l'univers, c'est quand même la matière la plus évoluée, la technique, l'art, l'activité humaine donne le signal d'alarme. On est peut-être arrivé, dit-on, arrivé à faire non seulement l'arche de la défense, mais arriver à faire un corps humain. C'est très intéressant, ça. Vous voyez, pour comprendre cette tension de l'humanité vers l'acte. Pour l'homme, l'acte le plus comme naturel, c'est le résultat de son activité, de son travail. Et là, il est en présence d'une finalité. Réaliser toutes les pièces du corps humain. Et alors, en plus, on dit que c'est beaucoup mieux que le corps humain. Parce que le corps humain est corruptible, on arrivera à faire quelque chose qui résiste à la corruption. Toutes les pièces. On verra un peu ce que ce sera. Un cyclope, un œil. Ce qui vaut mieux qu'il n'y en ait qu'un, ça résiste mieux que deux. Et ainsi de suite, vous voyez. Donc, bien comprendre cette expérience si exaltante de l'œuvre. C'est pour ça que on vous fait faire des petits exercices de dissertation pour que vous ayez l'expérience du chef-d'œuvre. Et par là, vous avez l'expérience quelque chose qui dépasse la Moïra, la destinée. Ce que dit Malraux. L'œuvre est anti-destin. Donc, l'œuvre permet à l'homme de toucher quelque chose qui dépasse le temps et l'espace. Parler à ceux qui sont les pilotes des avions modernes qui atteignent une vitesse extraordinaire. Ils se disent surhommes. Ils disent qu'ils ont une expérience que les autres n'ont pas, comme domination de l'air, de l'espace, domination du temps. C'est une griserie. Et c'est une œuvre dont on utilise cet instrument et on se met dedans, ce qu'il y a de mieux. Et l'instrument vous porte, et l'instrument vous domine, et l'instrument vous fait dépasser l'espace et le temps. L'acte, l'expérience de l'acte, l'expérience de l'acte dans le monde physique, dans notre monde d'espace et de temps. Il faut être très attentif à ça, je crois, aujourd'hui. Et essayer de le comprendre dans les différents domaines où on voit cette exaltation de l'homme. L'œuvre exalte l'homme. L'œuvre actue l'homme. Et donc, c'est sa gloire. C'est son expérience première, fondamentale, la plus immédiate de l'acte. Deuxième expérience de l'acte, l'amour d'amitié. Une expérience totalement différente. Et c'est rare que le même homme puisse aller jusqu'au bout de ces deux expériences. La griserie de l'efficacité du travail, de cette œuvre risque que l'homme soit entièrement capté et ordonné vers ça. L'homme devient homophadère de l'œuvre la plus exaltante qui soit et de l'utilisation de cette œuvre. Et autre expérience ordinairement n'est pas vécu par le même homme, le point de vue de l'amour d'amitié, où d'une manière intérieure, l'homme découvre son dépassement. Vous voyez, de l'acte dans l'activité artistique se fait par l'eidos. Par l'idée, grâce à l'inspiration. Et dans l'expérience de l'acte, en philosophie, en activité artistique, en activité de l'homme qui transforme l'univers, l'expérience extérieure des sens externes est très manifeste. L'œuvre d'art, je la palpe. L'œuvre d'art, je la vois. Je ne dis pas que je la mange, parce que c'est quelquefois difficile. Mais je la vois et je la palpe. Et je l'entends. Dans l'expérience de l'acte de l'amour d'amitié, c'est par l'amour. C'est le choix. Parce que c'est dans le choix que l'acte intérieur de l'amour est le plus fort, le plus immanent. Personne ne peut choisir ma place. C'est exaltant le choix de l'ami. Je te choisis. Vous voyez, c'est extraordinaire de voir comment l'Église, je m'appelle là à une expérience de tradition religieuse, met en lumière ce choix au moment du sacrement de mariage. Est-ce que tu choisis une telle? On ne dit pas est-ce que tu aimes? Non. C'est là l'acte interne ultime, le choix. musicien avait très bien saisi ça. La proie irrécisse, le choix, qui dépasse tout. Sainte Thérèse, la grande, avait très bien compris le choix du directeur pour une contemplative, directeur spirituel, entre 10 000. Évidemment, elle n'a pas fait l'expérience des 10 000 avant de choisir, mais intérieurement, elle le fait, le choix. Et le choix atteint l'autre en lui donnant une totale confiance, en faisant que dans le choix de l'ami, on considère que l'ami nous finalise. Et donc, à travers le choix, il y a l'expérience de l'ami. Je ne choisis pas un idéal. Oui, je choisis, c'est vrai, je choisis. Mais c'est un choix, j'allais presque dire, qui n'atteint jamais sa fin. Donc c'est un choix très imaginatif. Je me marierai avec Miss Idéal. Je la rencontrerai jamais. Donc je reste dans l'imaginaire. Je choisirai l'ordre le plus parfait. Il n'existe pas. Donc, j'irai voir tous les 10 000. Et au terme, j'irai, rien n'est conforme à mon choix. Parce que votre choix n'est pas réaliste. On choisit une réalité, existence, une personne. Très très intéressant de voir ces choses-là. Pour bien comprendre ce que c'est que l'acte dans mon activité éthique. Bien comprendre comment dans cette recherche de l'acte, il y a toujours deux moments. Entelekeia et Energeia. C'est très curieux. Tellement l'acte est difficile à saisir. Alors il y a toujours mon expérience et le terme de mon expérience. L'œuvre et mon travail qui touche l'œuvre. L'eidos qui dirige le travail. Et dans l'amour d'amitié, c'est l'expérience interne. Accepte d'être dépassé par l'ami. En quelque sorte, il faut mourir à moi-même pour que l'ami soit tout. Il faut mourir à mon choix personnel pour que l'ami soit présent. Vous voyez, l'entelekeia disparaît devant l'energeia ami. Je prends exprès ces termes grecs parce que il n'y a que dans la langue grecque que ça existe. En latin, on a dit actus actus. Donc on a perdu cette petite distinction capitale. De la manière dont j'atteins l'acte et l'acte lui-même, le pos et le tiesti. Le pos, ma manière d'atteindre l'acte, le travail, et un travail laborieux, un travail gigantesque, un travail qui mobilise les instruments les plus performants, un travail qui mobilise le plus d'hommes possible, la construction des pyramides. Ça mobilisait pas mal de gens. Les constructions modernes, s'impose à moi. L'ami s'impose à moi. L'œuvre s'impose à moi. On voit très bien le regard de l'architecte qui termine son œuvre. Ou un regard critique, c'est raté. C'est pas ça que je voulais. L'exaltation de lui, ou un regard d'admiration, c'est encore plus beau que ce que j'avais voulu faire. Mais saisissez bien ces deux moments, parce que l'acte implique les deux moments. C'est très curieux que lorsqu'il s'agit, je vois ça dans ces deux grandes expériences humaines de l'acte, au point de vue activité artistique, au point de vue activité éthique. Ces deux grandes expériences de l'acte font que je ne peux pas séparer l'entelecheia et l'energeia. Je les distingue, mais je ne peux pas les séparer. C'est très étonnant, ça. Ça, c'est très, très nouveau pour l'acte. J'ai jamais fait ça. Oui, j'ai bien pris substance première, substance seconde, d'une certaine manière. La substance seconde, elle est bien dans mon expérience interne. L'homme, j'ai jamais vu l'homme. Sauf Jean-Jacques. Vous voyez, Jean-Jacques s'est mis le doigt dans l'œil. Il a cru que l'expérience qu'il avait de lui, c'était l'expérience de l'homme. Donc il a confondu substance seconde et substance première. Pauvre Jean-Jacques. Il a confondu les deux. Et c'est vrai, il y a quand même deux moments. L'acuité et le taux d'étis. L'universel et le singulier. Dépasser la distinction d'universel et le singulier permet d'unir substance seconde et substance première. Donc on retrouve bien dans l'induction de la substance ces deux moments. Mais on les retrouve encore plus profondément et encore plus unis, si j'ose dire, dans l'expérience que j'ai de l'acte. Je vous ai dit l'expérience de l'homme politique. Ce serait très intéressant de bien comprendre l'expérience de l'homme politique à l'égard du bien commun. Ce bien commun qui est une œuvre artistique en partie. Parce que il est le résultat de l'activité des bons citoyens qui paient leur impôt. Bien commun implique un fondement économique. Quand l'État fait banqueroute, tous les citoyens font banqueroute. Là, ils sont l'œcuménisme de la banqueroute. Tous en même temps. Paraît-il, je ne suis pas spécialiste de cela, mais ce que me disait quelqu'un qui est un économiste et qui regarde ça avec beaucoup de soin, le plus grand soin d'aujourd'hui, c'est de maintenir pour l'Europe un franc qui puisse se tenir en face du mark. C'est extraordinaire, deux idoles. Et vous voyez, c'est curieux, comme finalité politique. Où est-ce que ça se situe? J'aurais jamais pensé ça, moi, au plan philosophique. Que le bien commun puisse se finaliser là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein? C'est assez rasmote, au point de vue politique. C'est économique. C'est l'économique qui finalise. comment le bien commun politique peut descendre. Et à ce moment-là, le point de vue du bien commun n'a plus rien de spirituel. Donc il n'a plus rien d'humain, proprement dit. C'est de l'homme, mais c'est plus humain. C'est l'œuvre de l'homme. Le bien commun, dans une politique machiavélique. Vous regardez ça. Vous relire de temps en temps Le Prince Machiavel. C'est très éclairant pour comprendre ce que c'est que la politique d'aujourd'hui. Ça se lit facilement. Petite lecture du soir avant de s'endormir. Le Prince Machiavel. Et cherchez le bien commun, là. Regardez le bien commun chez Aristote et chez Machiavel. C'est très intéressant à faire la comparaison. Le bien commun chez Aristote, c'est quand même quelque chose. C'est plus que le bien de l'individu. Il est plus divin. Employez le mot divin. Est-ce que le Marc et le Franc sont divins? Oui, on les divinise. Puisqu'ils sont des idoles. Alors, il faut essayer de comprendre que le bien commun est lié. On est apolitique à ce moment-là. On est absolument en dehors du point de vue politique. C'est très important de saisir que dans l'aspect de l'activité politique, on reste dans l'immanence de l'activité humaine. Et par le fait même, la subjectivité risque toujours de l'emporter. Un homme politique qui quitte l'éthique, qui ne sait plus ce que c'est que l'éthique, qui ne sait plus ce que c'est que l'amitié, qui ne sait plus ce que c'est que la personne humaine, risque de rester uniquement dans une immanence. Et quand je reste dans l'immanence, le poids de l'activité économique va l'emporter. On touche le fond. Je crois que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On touche le fond. On touche le fond au point de vue politique quand on ramène tout à l'économique. Alors, ça peut durer un certain temps, mais on fait des hommes, on fait de l'homme politique et des citoyens des robots. Donc des esclaves. C'est le nouveau type d'esclaves. Et on voit bien ça, puisque dans les pays de l'Est, c'est, tout le monde le dit, c'est unanime. Ils ont perdu leur âme. Ils sont des robots. Ils ne peuvent plus avoir d'initiative et de possibilité de se relever, sauf quelques-uns qui ont gardé la foi. Mais ce n'est plus l'aspect politique, vous voyez, ce n'est plus l'aspect humain. C'est l'aspect divin qui peut seul sauver l'homme esclave. C'est Dieu qui sauve le peuple d'Israël sous le joug de l'Égyptien, du Pharaon. C'est exactement ça. Il faudrait que tous les peuples de l'Est soient sauvés par la Pâque et qu'ils puissent passer la mer rouge sous l'action de Dieu. Il faut relire ce passage-là aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe, parce que c'est préfiguratif. Et ça nous montre bien comment un peuple réduit à l'esclavage ne peut pas supporter le désert. Il construit le veau d'or. C'est curieux. Le premier fruit d'un peuple qui a été soumis à l'esclavage pendant de nombreuses années, pas seulement 40 ans. Mais je sais bien qu'aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite. Là, c'était 400 ans. 10 fois plus. Première chose, dès qu'il est livré à lui-même, Moïse est parti sur la montagne, sur la sainte montagne. Et puis, une nuée l'a enveloppé. Donc, c'est le char de feu qui l'emporte au ciel. Il est perdu pour nous. Il est tout entier donné à Dieu. Pensée dialectique. Si on est tout entier donné à Dieu, on est perdu pour les hommes. C'est comme ça que les gens pensent aujourd'hui. Alors, à ce moment-là, livrés à eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Avec un prêtre au milieu d'eux, Aaron. Et le prêtre est consentant. Construisons le veau d'or. Construisons un Dieu au moins qui soit avec nous, au milieu de nous. On a besoin d'un point de vue religieux. Alors construit un point de vue religieux immanent qui vient de nous. Et que fait Moïse en redescendant? La colère sainte de Moïse. Il brise les tables de la loi. Parce que ce peuple est indigne de ça. Il ne peut plus recevoir ça. La gratuité. Il ne la connaît plus. La gratuité de l'amour. Il ne peut plus aimer. C'est très important pour nous de bien comprendre que nous n'avons pas d'expérience de l'acte energeia dans l'activité politique, qu'on n'a qu'une expérience de l'entelegeia, le bien qu'on fait et qui demeure le bien commun, mais qui ne dépasse pas l'immanence de l'activité humaine. Je n'atteins pas Dieu politiquement. L'homme d'État, pour atteindre Dieu, doit jeter par terre sa couronne pour voire adorer Dieu. C'est l'homme qui adore Dieu. C'est l'homme qui atteint l'acte. Ce n'est pas la communauté. Alors, communauté religieuse, point d'interrogation. Il faudrait se demander. Bien commun ne doit pas être poussé comme le bien tout court. Non, il est commun. Alors, ça en dit long. C'est le bien commun. C'est le bien de tous, fabriqué par tous, fait par tous, qui a l'empreinte de chacun. Alors, il demeure immanent. Et on ne dépasse pas le point de vue de cette expérience du comment de l'activité humaine. Là, le point de vue psychologique règne. C'est très curieux que dès qu'on est fixé sur le bien commun, le point de vue psychologique devient le sommet. Il n'y a plus la saisie libératrice de l'acte qui me permet de découvrir une fin propre. Je suis plongé dans quelque chose qui est extrêmement important. Le bien commun, c'est très important. Mais il n'actue pas l'homme dans ce qu'il a de tout à fait propre comme homme. Quand l'aspect politique est vrai, l'homme politique le sait. Quand l'homme politique ne le sait plus, très vite il vient un robot supérieur, mais un robot qui n'a plus de finalité. Et donc, n'ayant plus de finalité, il cherche à dominer. Il cherche à dominer et à réduire les autres relatifs à lui, en tuant leur âme. Rame spirituelle. Donc je crois qu'on peut dire qu'au plan activité politique, il n'y a pas d'expérience de l'acte. Je dis ça en mettant un petit point d'interrogation. J'en suis sûr, mais il faut bien le prouver. Vous pouvez mettre ça à vous et réfléchir beaucoup là-dessus. Quand faites-vous un acte politique? Vous allez dire tout le temps, quand vous payez vos impôts, quand vous ne les payez pas, cet acte politique est réduit à peu de choses dans la vie religieuse. Hein. C'est vrai. C'est la congrégation qui paie pour vous. Vous faites un acte politique quand vous votez. Là, vous faites un acte politique. Et quand vous votez, réfléchissez bien. Quelle finalité atteignez-vous? Est-ce que vous votez pour un homme ou pour un parti? Si vous votez pour un parti, la finalité est très faible. Si vous votez pour un homme, il y a quand même une certaine finalité. L'homme est plus que le parti. Mais si cet homme est entièrement inféodé à son parti, voter pour un homme pour le parti, ça revient au même. À ce moment-là, votre acte politique se réduit à très peu de choses, hein, au point de vue, pour toucher la fin. C'est un acte politique très important au point de vue quantitatif, puisque suffrage universel, donc très important qualitativement, point de vue de la finalité, très faible, très faible, et même peut-être pas du tout. C'est un pion au milieu des autres. L'aspect quantitatif l'emporte. pas, c'est le grand danger du suffrage universel. C'est que la quantité l'emporte sur la qualité. Et petit à petit, il n'y a plus que ça qui compte. C'est très curieux, hein, mais c'est pour ça qu'il faut être très attentif à ça. Quand on, au point de vue philosophique, on posait hier la question, faut-il aujourd'hui, étant donné que c'est si bas le point de vue politique, faut-il engager des gens bien à faire de la politique ? Je dis, je comprends. C'est urgent. Parce qu'on n'a pas le droit de se laisser couper la tête publiquement. Et de faire que l'éducation des enfants, qui est l'œuvre propre politique, ne peut plus se faire librement. Le droit le plus sacré de la famille, qui tend à être supprimé. Alors, il faut réfléchir sur l'acte. Réfléchissez là-dessus, c'est pour ça que je prends ces différents points. Et vous voyez que de fait, le bien commun, vous voyez, ce serait dans l'éducation où de fait, on retrouverait quelque chose où on touche la formation de la personne. Et donc quand même quelque chose qui est un acte. C'est là où le point de vue politique est le plus grand. Et c'est du reste là où les affrontements se font. C'est là où les Bretons se réveillent. On l'a vu il y a quelques années. Hein. Ils se sont réveillés. Quand on touche le point de vue de l'éducation, on dit école commune. Vous voulez l'école libre ? On sent qu'on touche là quelque chose qu'on n'a pas le droit de toucher. Mais voyez, parce que ça émerge et ça touche la famille. La famille touche quelque chose qui implique une finalité. Et la famille est dans l'État, mais la famille est plus que l'État. La famille est plus que l'aspect politique. La famille implique, et elle touche une finalité, l'amour d'amitié des conjoints, qui est source de toute la famille. Quand il n'y a plus ça, il n'y a plus de famille. Et la famille, alors, est bonne à être uniquement un élément politique. La famille n'est pas seulement un élément politique. La famille a quelque chose d'humain à sauvegarder. La fécondité, l'éducation. Les deux fécondités. La fécondité selon la chair et le sang et la fécondité spirituelle. Éduquer pour arriver à former une personne. Là, vous touchez quelque chose qui n'est plus un bien commun, qui est un bien personnel. Et vous retrouvez l'acte. Je passe maintenant à la philosophie spéculative. Quel est l'acte que j'atteins en philosophie de la matière, en philosophie de la nature. Est-ce que dans le monde des réalités physiques, matérielles, je peux toucher une finalité ? Est-ce que là, j'ai l'expérience d'une finalité. C'est un très grand problème, ça. C'est le problème de la philosophie, de la nature, dans ce qu'il a d'ultime. Est-ce que notre univers physique a une fin ? Ou est-ce que notre univers physique est uniquement ordonné à la vie ? Ordonné à l'homme. Y a-t-il une certaine finalité dans le monde physique ? C'est très, très important, prenez ça. Parce que notre univers physique n'a pas de finalité. C'est un pur instrument dont je me sers pour le bien de l'homme. Uniquement. Je peux en faire tout ce que je veux et l'homme domine. Il est totalement pour l'homme. Et donc l'homme en fait ce qu'il veut. L'univers physique a une détermination. Les éléments sont quelque chose de fondamental pour l'univers. Ils sont liés l'un par rapport aux autres, c'est sûr. Il y a un devenir permanent dans le monde physique. Le monde physique est tout le temps en mouvement. Il n'y a pas de repos dans le monde physique. Mais il y a une harmonie et il y a un ordre. Et cette harmonie et cet ordre est en vue de la vie et en vue de l'homme. L'univers physique, j'en parle à partir de la Terre, en philosophe, pas en savant. Parce que le savant ne s'occupe pas de savoir s'il y a une finalité dans le monde physique. Il ne peut pas le savoir. L'homme qui réfléchit sur son corps est obligé de se poser la question. L'univers est pour lui. D'une certaine manière, il finalise l'univers. Si la petite planète Terre est la seule où il y a la vie et où il y a un être spirituel, je dois dire au plan philosophique que tout l'univers physique est pour l'homme. Alors voyez, l'acte du monde physique est en dehors du monde physique. Puisque la finalité du monde physique n'est pas le monde physique. Cependant, je dois dire tout de suite que ce monde physique est ordonné d'une façon immanente à la vie. Et donc, il y a dans le monde physique un ordre vers une fin. Et cet ordre vers la fin, c'est